Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
Eh bien, je suis Violaine Capet, j'ai créé mon cabinet d'accompagnement pour les personnes en reconversion professionnelle il y a de ça 5 ans maintenant, après une vie professionnelle riche et variée.
Parfait, merci Violaine. Toi, tu es en ligne et en présentiel, les deux?
Oui. Plutôt en ligne. Hein, 95% des personnes que j'accompagne sont même parfois hors de France, dans les territoires outre-mer ou même à l'étranger. Donc oui, beaucoup en ligne.
D'accord, super. Je préfère toujours préciser pour les personnes qui regardent. Donc on va commencer tout de suite ce live sur les multipotentiels. Donc pourquoi je n'arrive pas à trouver ma voie professionnelle? Alors justement, Violaine, la multipotentialité, c'est quoi?
Eh bien, pour dire ça très simplement, c'est une personne multipotentialiste, ou une personne multipotentielle, est une personne qui a plusieurs potentiels, plusieurs centres d'intérêt, plusieurs capacités, voilà. Et ce qui est important, c'est que son épanouissement passe par le fait de vivre ses différentes potentialités. Et si cette personne ne se connaît pas comme telle, elle aura un sentiment de frustration ou de décalage important. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc c'est une personne qui est normalement assez curieuse, qui peut avoir des centres d'intérêt très très différents. Hein, ça peut aller de la botanique à l'informatique, en passant par la faune marine. Enfin voilà, y a rien de... c'est pas du tout nécessaire que ce soit dans un même domaine. Donc une vraie adrénaline pour la nouveauté ou la volonté d'apprendre, ça c'est très caractéristique. Alors ce qui est caractéristique aussi, c'est que quand l'apprentissage est fait, quand le domaine a été investi, il s'ensuit très souvent au bout de... Généralement, les personnes que j'accompagne me parlent toujours de cycles de 2 ans, au bout desquels ces personnes se lassent. En fait, elles ont fait le tour. Elles ont suffisamment appris, elles ont ressenti cette aventure exploratoire de manière intense. Mais si on leur demande de répéter ou de transmettre ce qu'elles ont appris maintenant, eh bien, elles n'en voient pas vraiment elles-mêmes du coup d'intérêt, ou elles n'y voient pas suffisamment de challenge. Donc, c'est pas facile à vivre. Et ces personnes-là, troisième caractéristique, ont souvent une pensée en arborescence, hein, c'est-à-dire en réseau, c'est-à-dire une idée, appelle une idée, appelle une idée, appelle une idée, d'où cette adrénaline quand on est en stade d'apprentissage. Donc, voilà les caractéristiques. Peut-être que les principales forces qui ont été dégagées par Emily Wapnick, qui a la première fait connaître, alors il y a Barbara Scher qui parle de scanner, mais disons que c'est vraiment Emily Wapnick qui a développé ce terme de multipotentialité. Mm-hmm. Elle a fait un TEDx qui est vu, je crois qu'il y a plus de 7 millions de personnes qui l'ont vu. Et moi, quand j'accompagne des personnes que je pressens comme telles, je leur demande tout de suite de regarder ce TEDx qui est très bien fait. Donc, c'est le sens de l'innovation. C'est des personnes qui sont là pour créer, qui ont des visions. C'est des personnes qui sont extrêmement adaptables, parce qu'en fait, de toute façon, elles sont tout le temps en train d'apprendre et de se réinventer. Donc, de toute façon, elles sont tout le temps en dehors de leur zone de confort. Et elles ont aussi une troisième force, c'est qu'elles apprennent très fortement à apprendre. Hein, donc c'est presque une spécialité chez ces personnes-là d'apprendre. Donc, elles ont développé une surcapacité à rentrer facilement sur un sujet et le développer, et puis en avoir une connaissance, en tout cas, une bonne connaissance. Pas de manière forcément experte, mais en tout cas, une bonne connaissance.
D'accord. Alors justement, Violaine, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour quand on prend conscience de ce mode opératoire, et comment on peut bien le vivre?
Alors, tu as bien raison de parler de bien le vivre, parce que beaucoup de personnes que j'accompagne vivent cela très 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 mal. En fait, elles n'ont pas conscience de leur originalité. Si elles étaient nées au moment de la Renaissance, elles auraient été starifiées. Hein, celui qu'on connaît, qui est Léonard de Vinci, pendant la Renaissance, lui, il était à la fois poète, sculpteur, botaniste, inventeur, scientifique, peintre, vous avez presque oublié, voilà. Et tout ça est extrêmement valorisé, en fait. Cette richesse intérieure est extrêmement valorisée. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu produire, il a fallu être, voilà, faire augmenter la croissance économique pour des raisons qu'on connaît bien. Et de ce fait, les profils plutôt experts ont été fortement valorisés. Et c'est encore plus vrai en France qu'ailleurs. Et donc, la difficulté, quand on essaye de trouver une vocation pour faire plaisir aux uns aux autres, parce qu'on comprend que c'est ce qu'on attend de nous, puis des fois, on se rime depuis l'âge de 6-7 ans sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et qu'en fait, on se rend bien compte qu'on aura envie de faire 3-4 choses en même temps, et qu'en plus, ça change tous les 6 mois, on a bien conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas très bien chez nous.
Oui, donc, ces personnes-là... J'imagine que les Roms qu'on se paye, si je peux dire ça, c'est vraiment... tu peux taper un boulot stable et ça te plairait pas d'avoir un boulot stable et finalement on le sent un peu comme une certaine culpabilité, j'imagine aussi.
C'est ça. Ce qui se passe en elles souvent, c'est qu'elles s'entendent dire ou penser, parce que parfois elles ont intériorisé cette difficulté que voilà, c'est tu ne finis jamais ce que tu as commencé, mais tu es instable, mais tu sais pas ce que tu veux. C'est bon à peu près partout, donc tu es excellent en rien. Donc finalement, tu n'es pas très utile. En fait, c'est normal que tu ne sois pas reconnu, hein, parce qu'il n'y a pas cette idée. La médaille va à la spécialité, va au profil expert, ne va pas à quelqu'un qui a un ensemble de connaissances qui est pourtant extrêmement, on le verra plus tard, qui est pourtant une très grande force. Donc, il va cultiver une mauvaise estime de lui qui ne va pas le pousser, en fait, à mieux essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et à chercher peut-être comment est-ce qu'il peut cultiver sa différence, comment il peut en faire une force. Donc, très généralement, il y a le fait qu'on ait mal vécu sa vie professionnelle parce qu'on n'a pas de vocation. Et on n'en aura jamais, parce que vocation, c'est le verbe latin être appelé, quoi. Donc, être appelé à, on n'est pas appelé. En fait, le multipotentialiste, il développe sa carrière, son cheminement professionnel au fur et à mesure des rencontres qu'il fait, des idées qu'il a et des terrains d'investigation qui se présentent à lui et pour lesquels il a de l'intérêt. D'accord ? Donc, en fait, ça se fait au fur et à mesure. Pour le coup, il vit plus l'instant présent dans sa capacité à se remettre en question et à affiner en fait ce qui lui manque pour jongler, passer d'un monde à l'autre et pouvoir innover. Et c'est vrai que c'est très mal vécu. On sait que, alors ça bouge un peu, hein. À chaque fois je dis que ça bouge un peu, on parle de plus en plus de ce thème, il y a des agences de recrutement qui ne s'intéressent qu'aux personnes qui ont cette multipotentialité, et dans l'économie disruptive qui va très vite aujourd'hui, on a besoin de très vite rebondir et d'apprendre sur différents domaines, ces personnes, pour moi, ont un super avenir. Mais voilà, très souvent, elles sont pas forcément bien accueillies quand elles ont un CV qui montre qu'en fait, voilà, tous les 2-3 ans, elles ont un peu trop bifurqué. On a l'impression et on leur fait souvent grief d'être instable et donc d'être un danger pour l'entreprise qui va chercher à sécuriser en fait l'investissement d'un travailleur longtemps. Je suis vraiment, ce terme à chaque fois me prend à la gorge parce qu'en fait, pour moi, la fiabilité, elle est d'ordre interne. C'est plutôt sa capacité à être alignée avec soi-même et faire incarner ses valeurs. La fiabilité, c'est vraiment ça. Il n'y a rien d'héroïque, forcément, à poursuivre une carrière tout au long de sa vie dans la même entreprise. C'est une manière de concevoir les choses, mais ça peut être aussi très intéressant d'imaginer de faire venir quelqu'un qui, justement, a exploré beaucoup d'autres domaines pour avoir son œil critique et pour lui permettre, du coup, de se servir de son expérience antérieure pour proposer autre chose.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas, du coup, si tu avais d'autres conseils pour mieux vivre cette multipotentialité, sinon on passera à la dernière question.
Alors, pour moi, elle est très simple. C'est effectivement s'accepter tel que l'on est. Comprendre qu'on a une force qui n'est pas celle des experts ou des spécialistes, qui est plutôt celle de faire des traits d'union entre des mondes qui ne se parlaient pas ou qui ne se connaissaient pas avant. Ça pour moi, c'est vraiment la clé, c'est vraiment le mode opératoire parfait pour pouvoir s'épanouir dans tous ces champs d'intérêt que l'on cultive et moi j'ai envie d'encourager, que je trouvais extraordinaire.
Voilà. D'accord, merci Violaine. Alors, est-ce que maintenant tu peux nous donner des exemples de vie professionnelle réussie ?
Volontiers. Et le premier qui me vient à l'esprit, puisque c'est un des premiers que j'ai compris, c'est le cas de Florence Pousset, qui m'a d'accord pour que je parle d'elle. Elle, c'est un médecin, hein, donc vraiment, qui a travaillé au CNRS, qui a fait beaucoup de recherches, voilà, qui était vraiment donc profil universitaire, type vocation expert, et qui, en même temps, se passionnait pour, je vais dire ça un peu de manière très globale, le monde de l'invisible, ce qui n'est pas montré scientifiquement, en tout cas démontré scientifiquement aujourd'hui, comme un peu un univers parallèle, alors sans aller jusqu'à l'ésotérisme, mais en tout cas, tout ce qui est hypnose, elle, le fait d'avoir en même temps une intuition très développée et une connaissance en fait de ce monde-là, et en même temps sa connaissance universitaire, elle a pu être un trait d'union entre le visible et l'invisible. Voilà, parce que ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, et elle apporte au monde, et du coup, en ayant un langage de scientifique pour décrire quelque chose qui n'avait pas encore été forcément démontré, pour moi, elle a fait avancer le monde. À mon humble niveau, je peux reprendre mon exemple parce que je le connais bien. À la fois, quand je me suis engagée en politique et que je travaillais un moment à l'Assemblée nationale, j'avais cette volonté de changer le monde et voilà, une vraie quête de sens à assouvir qui s'est à chaque fois qui a été un fil rouge de ma vie, hein, ça, c'est qui reste là. Et j'avais fait du droit, donc en tant qu'avocate, j'avais pas mal exercé aussi. Je m'étais intéressée aussi au monde économique depuis toujours, comment trouver sa place, comment fonctionnent voilà, les économies. Donc, j'avais fait un MBA en intelligence économique. Et en même temps, j'étais passionnée de développement personnel, de neurosciences, de psychologie positive. Et j'avais passé aussi un diplôme à Yale, dans cette université.
D'accord.
Et tout ça fait de moi, alors, à la fois quelqu'un qui a beaucoup bougé, quelqu'un d'instable, quelqu'un qui pouvait être absolument cohérent ou quelqu'un qui pouvait avoir enchaîné différentes vies sans qu'on comprenne forcément où je voulais aller. Mais quand j'ai réussi à faire un trait d'union entre toutes ces disciplines et tout ce qui me passionnait, eh bien, ça me faisait une personne quand même assez pertinente pour accompagner des transitions professionnelles parce que, eh bien, j'avais à la fois cette capacité à aller très vite au niveau des idées, à innover, à comprendre cette problématique de trait d'union entre différents mondes, mais aussi quand il s'agit de passer à l'acte et éventuellement de se reconvertir, de créer sa propre boîte, de partir bien de son emploi, eh bien, j'avais aussi des connaissances juridiques, en droit social, pour les amener à partir de manière sécurisée et le mieux possible. Et donc, ce qui m'apparaissait comme étant décousu et un peu en puzzle, finalement, s'est révélé être quelque chose d'intéressant. Mais on peut faire converger ça, hein, mais on peut, j'ai aussi accompagné pas mal de personnes qui sont des slasheurs et qui font plusieurs choses, plusieurs activités en parallèle.
Est-ce que tu as un exemple aussi, là à nous donner de...
Un exemple, je pense à Inès. Alors, c'est intéressant parce que Inès, elle a été vraiment spécialisée dans tout ce qui est e-réputation. La réputation des entreprises ou des dirigeants sur les réseaux sociaux. Et donc, elle a fait ça pendant un moment. Ensuite, elle est donc dans une entreprise. Ensuite, elle s'est mise à son compte. Elle a fait les choses un peu différemment et elle s'est formée en coaching. Et elle a, par la suite, formé un think tank parce qu'elle avait un côté très écolo. Et en fait, quand on échange beaucoup sur les réseaux sociaux, on sait qu'on stocke beaucoup de données et qu'il y a un problème écologique derrière. Et donc, je pense que elle fait ça en parallèle, ces trois activités, mais je pense que quand son think tank pourra lui permettre de dégager un revenu, eh bien, elle aura ce trait d'union, quelque part. Elle aura une seule et même activité. Mais d'autres vont pouvoir... Enfin, je pense à Isabelle, que j'ai accompagnée aussi, qui était un prof d'anglais à la fac. Elle est maintenant prof d'anglais sur une plateforme. Elle est partie en digital nomade faire le tour du monde. Et en même temps, elle écrit beaucoup sur la... elle est passionnée de tout ce qui est plantes sauvages. Et récemment, elle a passé un diplôme pour devenir photographe parce qu'elle a besoin d'images dans son. Donc, elle, je pense qu'elle veut garder, elle veut garder l'anglais d'un côté, le fait de transmettre, et puis son attirance pour les, pour tout ce qui est fleurs sauvages et qui disparaissent aussi.
Je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais voilà. Ouais. Mais donc, parlons les exemples que tu as pris. Donc, merci Violaine. Je vois qu'il y a des témoignages et des questions qui tombent du coup. Il y a Sephora qui nous dit « On est jugé comme incohérent parce que la société est conçue pour des acteurs clés en main et non pas pour des gens qui ont leur singularité et qui en jouissent pleinement. »
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Alors, avec cet espoir que j'ai, que petit à petit, à force d'en parler, eh bien, ces personnes-là soient mieux accompagnées et mieux acceptées, et que parce que je pense qu'elles ont vraiment leur place, encore une fois, dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que elles ont beaucoup souffert. Si elles n'étaient pas à la bonne place, elles ont vraiment beaucoup souffert, et injustement. C'est complètement une réalité.
D'accord. On a un autre commentaire de Flava qui nous dit « Moi, je dis souvent, le problème de ma vie, c'est que je peux faire plein de choses. Et le retour, c'est toujours la même chose. Ça va les chevilles ?» On lui dit.
Oui, bébé. Oui, on peut paraître pour... on peut paraître quelqu'un d'un peu... avoir un complexe de supériorité sur le fait qu'on peut faire plein de choses, c'est pas vrai. En même temps, ça mobilise beaucoup d'énergie d'apprendre et d'investiguer plusieurs domaines. Donc je le regard de l'autre est pas, encore une fois, est très jugeant et pas juste par rapport à ça. On dit qu'on commence à savoir faire vraiment quelque chose quand on y a passé 10 000 heures. Hein. Et le multipotentialiste, il a quand même besoin d'aller jusqu'au bout. Après, c'est le fait de répéter, d'être dans une logique d'industrialisation de ce qu'il a compris, c'est impossible pour lui. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui maîtrise des choses et qui crée de l'intelligence par les biais et les liens qu'il fait autour de lui. Oui.
D'accord. On a un autre commentaire qui dit « J'ai presque l'impression qu'il n'y a qu'en étant à son compte qu'on peut vivre pleinement son multipotentiel.
» Je suis un peu d'accord. Après, je veux pas... Je suis un peu d'accord, mais disons qu'on peut nuancer ça en disant que on peut prendre son temps, qu'il y a certaines entreprises, mais alors, encore une fois, il faut les trouver, ces entreprises, dans lesquelles vraiment le multipotentialiste peut s'épanouir. Pourquoi pas, peut avoir 3 jobs au sein de l'entreprise. Mais il faut des entreprises qui aient un management hyper horizontal, qui soient dans le collaboratif, qui soient pas du tout dans une discipline ou un pinaillage sur le présentiel. Il faut des entreprises extrêmement ouvertes qui laissent une grande autonomie, qui permettent la créativité et l'expression de chacun. En fait, il n'y a rien de pire pour un multipotentialiste quand il se sent bridé, incapable de vivre son expression. Mais oui, je ne peux qu'être d'accord avec ce commentaire-là. C'est peut-être l'endroit le plus... on a un immense terrain de jeu et il faut être acteur de sa communication, acteur de ses contenus et faire évoluer ce qu'on a envie de produire en tant que service, en tant que produit. Donc oui, c'est le poste rêvé avec, attention, un petit bémol, attention... On en a parlé sur ici pas mal de fois. Attention au burn-out, attention à quelque part la personne qui est potentielle. Elle a tellement d'adrénaline quand elle est dans l'apprentissage, elle est tellement bien là-dedans qu'elle ne sait pas toujours très bien gérer son temps et son énergie.
D'accord. Merci Violaine pour cette explication. On a un autre témoignage et question aussi. Waouh, c'est vraiment mon cas. Je fais beaucoup de choses, mais je ne me sens pas assez bien pour choisir quelque chose que j'aime plus. Comment se sortir de cette situation ?
Ne pas choisir. c'est ça, en fait, le problème pour les personnes multipotentialistes. Elles ont l'impression qu'il faut absolument choisir. Pour elles, choisir, c'est renoncer. Et en fait, quand il y a beaucoup de choses qui les intéressent, c'est un vrai enjeu. C'est vraiment compliqué parce que, comme il y a ce processus de construction, déconstruction, et le fait de créer, puis finalement pour pas forcément aller jusqu'au bout, en tout cas ne pas poursuivre, il y a un enjeu terrible dans le choix chez ces personnes-là. Donc ce que je conseille, c'est essayer plutôt de trouver le lien ou la force qu'on a en tant que soft skills pour pouvoir aller là où c'est intéressant, là où il y a du plaisir pour soi, mais se dire que de toute façon, ce choix, il n'est jamais définitif. On peut prendre un chemin et le modifier ou l'infléchir ou le faire évoluer comme on souhaite. On n'est pas obligé de choisir. C'est pour ça que quand on n'en est pas à l'idée de l'entrepreneuriat, mais il faut que là, pour le coup, on se sente quand même un peu musclé, parce que être un serial entrepreneur, bon, c'est bien, mais il faut un petit peu de bagou, puis un petit peu de solidité. Mais être slasher, ou dans ces cas-là, on va faire des expériences et on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, si je puis m'exprimer ainsi. Mais c'est vrai que la question du choix, elle est très, très, très compliquée. Je crois que très souvent, la personne du potentialiste, elle a tendance à essayer de se forcer, à croire que c'est bon, ça va y aller. Alors, elle prend des gages souvent auprès des personnes qui sont autour d'elle. Non, mais c'est bon, je te jure, là, cette fois-ci, c'est ça. C'est... Et on ressent quand même, parce qu'elle-même espère, en fait, mais oui. Ce qui n'arrivera pas, en fait. Mais c'est souvent sa manière de cheminer aussi, pour prendre conscience, après avoir pris plein de murs, que, bah non, il n'y a pas un choix rédhibitoire, il y a un cheminement, et il y a une évolution, et il s'agit de naviguer au mieux dans cette évolution, et parfois, donc, pour moi, le point d'orgue, c'est un trait d'union en montant son entreprise.
D'accord.
Voilà, c'est ma vision, hein, c'est vraiment ma vision.
D'accord. Il y a eu un débat aussi, Violaine, qui s'est généré entre Claire et Sephora.
Oui.
Sephora qui nous dit que elle trouve que dans les modèles anglo-saxons et plus globalement dans le reste du monde, donc hors France, elle trouve qu'on valorise les compétences, qui n'est pas forcément vrai en France. Et Clyde a dit que justement, il trouvait que c'était la même chose partout, en fait. Même quand tu voyages, tu voyais les mêmes choses partout.
Alors moi, je suis assez d'accord avec Sephora.
D'accord.
De ce que j'ai pu expérimenter moi-même et des personnes que j'ai pu accompagner, les personnes qui ont par exemple travaillé au Québec et qui reviennent en France ont beaucoup de mal. Des personnes que j'ai pu accompagner qui ont travaillé en tant qu'expat dans des pays anglo-saxons ont eu l'impression qu'on leur donnait beaucoup plus leur chance par rapport à une motivation qu'ils pouvaient avoir et une envie d'apprendre et de se motiver pour... dans un champ d'activité, plutôt que de lire avant de quelle école on est sorti et quelle passe VIP ça nous donne pour faire ci ou ça. C'est un peu le modèle français. Donc, moi, je l'ai vraiment expérimenté, cette différence, d'une manière quand même très forte, voilà, en espérant que ça bouge un peu. Mais oui, c'est ce que j'ai pu aussi observer.
On va en faire encore une ou deux questions, et encore, il y a beaucoup de témoignages surtout. Nelly qui nous dit qu'elle est naturopathe, je trouve frustrant de se sentir multiple dans ses compétences, mais de ne pas arriver à en vivre, ou même juste trouver sa voie. Est-ce qu'il y a une certaine frustration?
Oui, il peut y avoir une vraie frustration. Oui, parce qu'il y a effectivement beaucoup de potentialités, il y a beaucoup de possibles. Mais effectivement, quand il s'agit de gagner sa vie, l'idée qu'il faut peut-être... être quand même un petit peu expert. Et donc, on peut être expert dans le trait d'union. Je reviens toujours à ça. On l'est, puisqu'en fait, on fait converger des mondes qui avant ne s'étaient pas forcément rencontrés. Mais effectivement, on ne l'a pas sur un profil généraliste. Et donc, il y a une vraie frustration. Et il y a un chemin qui n'est pas forcément ni facile, ni un chemin qui peut être long pour comprendre, en fait, comment valoriser quand même tout ce qu'on a pu apprendre, même si c'est dans des domaines différents, même si ça appartient au loisir et que c'est pas forcément professionnel, comprendre aussi tous ces soft skills, etc., etc. Oui, c'est un chemin et oui, je comprends cette frustration très bien. En même temps, quand on y réfléchit, voilà, on a besoin des deux. Moi, si je dois me faire opérer demain, j'ai pas envie que la personne qui m'opère me dise bon bah voilà j'ai été laboureur, j'ai ensuite été un super champion de poker, ensuite j'ai fait du développement informatique et puis en fait depuis un an j'opère et vous êtes ma deuxième patiente. Franchement, je préfère qu'il ait eu ce tunnel et cette révélation à 15 ans et que je sois la 200e patiente qu'il a sur exactement le même problème. Encore une fois, on a besoin de tout le monde. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que les multipotentialistes, eux, ils auront forcément une forme d'originalité. Ils auront forcément, justement, quelque chose qui ne va pas ailleurs. Donc, il ne faut pas chercher la spécialité, il faut chercher plutôt l'unicité. Qu'est-ce que moi, en fait, je suis la seule à pouvoir apporter par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter? C'est plutôt à cette question qu'il s'agit de répondre. Et ce n'est pas simple de le faire seuls, surtout qu'on a des multipotentialistes qui ne se connaissent pas bien ou se connaissent mal ou pas du tout, ont un problème vraiment d'estime de...
D'accord.
De même.
Alors, on va encore regarder... Il y a deux questions. Bon, il y en a beaucoup. Hein, mais... Alors, il y en a qui nous dit « Je suis actuellement en burn-out parce que je ne trouve pas ma place nulle part. Et est-ce qu'être indépendante peut m'aider ?»
Oui, alors après, oui, non, c'est difficile de répondre. Après un burn-out, l'idée, c'est de prendre du temps, du repos pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour pas que ça revienne, parce que ça peut revenir en tant qu'indépendante. Moi, j'ai accompagné aussi plusieurs entrepreneurs dans un burn-out. Donc, ça, c'est un... Donc, bien comprendre ses besoins, bien, qu'est-ce qui s'exprime, et remettre de l'envie, du plaisir, et retisser peut-être refaire une cartographie de ce qu'on aime, de ses capacités, de ce qu'on a envie de transmettre au monde, pour choisir une activité d'indépendante. Mais d'où vient le burn-out ? Est-ce que c'est une pression extérieure ? Est-ce que c'est une pression intérieure ? Dans ces cas-là, elle peut revenir. En fait, rien n'est forcément une solution. C'est plutôt ce qu'on va faire. Ça, là, on parle d'un mode de fonctionnement économique. Encore une fois, on peut se retrouver slasher dans l'entrepreneuriat ou dans une bonne boîte. Moi, j'ai fait un petit peu tout pour arriver à la fin à quelque chose qui me convenait bien. Mais finalement, avant, je n'aurais peut-être pas passé le pas, je n'étais pas forcément prête.
D'accord. Comme tu dis, finalement, c'est un cheminement. Ouais.
Pour moi, oui. Ouais.
Alors, on va regarder un dernier témoignage. J'ai vu qu'il y avait Pomme Grenatée. On m'a toujours reproché le fait de ne pas être concentrée sur une seule chose et de la finir. Au début, ça me frustrait, et puis j'ai décidé de m'écouter et me suivre. Je le vis mieux. Et comment on peut faire finalement, quand on a cette critique, Violaine, de pas être concentré sur une seule chose ?
Alors, déjà, quand on a une critique, il faut la laisser à l'autre. C'est le point de vue de l'autre, ça n'est pas le sien. Donc, l'autre a le droit de dire ce qu'il pense, et encore, on ne lui a pas forcément demandé son avis, donc... mais voilà, il a le droit de... C'est sa vision à lui, par rapport à lui, ce qu'il ressent. Pour autant, nous, on... Alors, je dis nous, parce que, bon, voilà, j'ai dit, hein, j'en étais vraiment une, on peut avoir envie d'aller explorer plusieurs domaines sans forcément aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire, aller jusqu'au bout ? Peut-être qu'on a suffisamment... Quand on va chercher quelque chose, quand on a suffisamment d'informations, trois petits tours et puis s'en vont. Et puis on se sert de ce qu'on a compris pour réavancer sur un autre sujet ou faire des liens avec d'autres. Il n'y a pas de nécessité à chaque fois de rentrer à fond dans quelque chose. Encore une fois, il y a besoin de spécialistes et il y a besoin d'autres personnes qui ont juste cette vision, ce que Barbara Sher appelle la vision scanner. En fait, on est très généraliste. On a une vision du monde assez développée sur plein de domaines. Et ça peut être intéressant dans bien des situations. Dans le tien, par exemple, à mon avis, c'est intéressant que tu aies plusieurs champs d'investigation et plusieurs centres d'intérêt pour pouvoir mieux transmettre et mieux faire parler les personnes que tu interroges ou mieux faire vivre leur message et leur spécialité.
Clairement. Oui, j'ai cette chance d'avoir fait plein de choses en même temps. Oui, ça c'est vrai. Alors, du coup, je vais faire quand même une dernière question qui me semble importante, oui, parce qu'on ne l'a pas abordée. Et je pense que c'est un point important. J'ai là qui nous dit, moi, j'ai tendance à me lasser rapidement. C'est vrai, cette lassitude, on n'en a pas trop parlé. Avoir envie d'apprendre autre chose. Comment on peut gérer ça ? Est-ce qu'on retrouve ça chez une multipotentielle ?
Bien sûr, puisque effectivement, quand il a fait le tour du sujet, il y a cet ennui. Donc, très souvent, on parle aussi de bore-out, hein, de cet ennui qui nous ronge au travail, qui fait que quand une mission est terminée ou quand on a fait le tour sur quelque chose, eh bien, il y a une espèce de vide. On n'est plus dans cette tension d'apprendre. Et du coup, on a un certain mal-être, il y en a qui parlent même de dégoût, du fait qu'ils se détournent de la chose. Et on a beau forcer, ça ne fonctionne pas. On sait qu'il y a un phénomène de procrastination qui se met en route. Donc, encore une fois, c'est comme ça, c'est accepté. Cette sensation qu'on a correspond à quelque chose qui parle de nous, qui fait que voilà, l'ennui arrive. D'où la nécessité de bien penser sa place en entreprise, un poste où j'enchaîne les projets, où j'ai plusieurs projets, où je suis en même temps un couteau suisse, où, parce que dès qu'on ne sera plus en mission, dès qu'on ne sera plus en mode explorateur, effectivement, il y a quelque chose qui va retomber. Voilà. Donc, on peut l'éviter si, par exemple, on est à son compte et qu'on est à 360 degrés et qu'on ne peut pas s'ennuyer parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. ou dans une entreprise dans laquelle on va toujours en fait nous donner suffisamment de travail qui est diversifié et intéressant pour qu'on aille explorer. Mais c'est vraiment cette exploration. Quand elle est plus là, elle est plus là. Ça fait partie de l'ADN. Donc j'ai envie de dire, elle vient juste nous dire qu'on n'est pas à la bonne place si ça se répète trop souvent.
D'accord. Merci Hélène d'avoir répondu à toutes ces questions qui étaient parfois pas évidentes. Hein. Donc, merci beaucoup d'y avoir répondu. Je ne sais pas si tu avais un message aujourd'hui à faire passer auprès des multipotentiels, si tu as quelque chose qui te tient à cœur à transmettre ou tout simplement parler de ton cabinet avant de terminer ce live.
Eh bien, je leur dirais que si vous vous retrouvez dans ce profil-là, la première chose, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous faire mal, arrêtez de vous mésestimer. Vous avez plein de choses à apporter, une vraie créativité, une vraie contribution à faire dans ce monde. Et donc, faites-vous accompagner. Alors, moi, je peux le faire. J'ai des parcours de coaching qui sont aussi pris en compte. Il y a le CPF si on passe par un bilan de compétences, par exemple, ou aussi dans l'entrepreneuriat. Trouvez la bonne personne pour vous accompagner sur ce chemin, parce que c'est vraiment un gâchis monumental de pas vivre tel qu'on est. Voilà, tout simplement.
Ouais, merci beaucoup, Violaine, pour ce message que tu as transmis aujourd'hui et pour toutes ces questions qu'elle t'a répondu et pour toutes ces informations. Je pense que tu as les remerciements qui viennent directement en ligne. Voilà, c'est le meilleur.
Merci à vous.
Merci à vous aussi. Merci à toi pour ta présence. Je te souhaite une très belle journée et merci encore.
Merci, Charlotte. Merci à vous tous.
Belle journée, Violaine. Au revoir.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.